En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la France a été l'un des premiers pays à fonder un comité consultatif national d'éthique sous l'impulsion du président Mitterrand en 1983. Une réflexion s'imposait en effet dans une société où les progrès de la médecine repoussent toujours plus loin les limites de la vie. Mais finalement, qu'est-ce que l'éthique? Quelle est la différence avec la morale? Axel Kahn, éminent généticien, membre de l'Académie des sciences, a donné une conférence sur ce thème avec l'exemple de la procréation assistée. Enregistrée au Grand Salon de la Sorbonne en octobre 2007, à l'occasion de la Semaine de la Science, elle s'adressait à un public de lycéens. On écoute sans plus tarder l'intervention du professeur Kahn.
On m'a demandé de vous parler effectivement de l'interface, de la rencontre entre la science et la société, mais en me focalisant sur un sujet qui nous intéresse tous, qui est celui de la procréation, de la reproduction humaine, et notamment de la reproduction humaine lorsqu'elle a besoin, ne se déroulant pas bien spontanément, d'être assistée par des méthodes médicales. J'imagine que l'on m'a demandé de traiter ce sujet, car il illustre parfaitement, en effet, tout à la fois l'évolution des sciences biologiques et des techniques, le passage de la connaissance à la maîtrise technique, dans un domaine qui est la préoccupation de tout le monde, celui de la médecine, en l'occurrence plus particulièrement de la reproduction, ai-je dit, alors même que l'application à l'homme de ces techniques pose clairement des questions morales. Alors, j'ai dit des questions morales. Je n'ai pas dit des questions éthiques. Aujourd'hui, la mode n'est pas à la morale. La mode est à l'éthique. Je ne vais pas longuement discourir sur les différences entre le mot éthique et le mot moral. Simplement, je vais écarter d'un revers de main ce pourquoi le terme moral aujourd'hui est passé de mode et est devenu inusité. Lorsque les jeunes et les moins jeunes entendent parler de morale, ils entendent parler d'une suite de prescriptions normatives indiquant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et parmi ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui mène au plaisir. Le plaisir serait immoral. On a considéré que cette démonisation du plaisir, des plaisirs, n'était plus acceptable à l'heure où il nous revient à chacun d'entre nous de déterminer dans son autonomie ce qu'il veut faire de son corps, de son action, à partir du moment où il respecte autrui. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, on a utilisé, pour parler à peu près de la même chose, du terme d'éthique, puisqu'on est ici dans un lieu qui est voué aux sciences, mais également aux lettres. Tous les littéraires savent que les racines étymologiques d'éthique et de morale sont identiques. Simplement, l'une est grec, éthos, les mœurs, et l'autre est latin, mos mores, les mœurs, en latin. Et au moment de l'Empire romain, mos mores a donné moralis, qui veut dire la science du bien et du mal. Par conséquent, la morale, c'est l'interrogation sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et alors l'éthique, telle qu'on l'utilise aujourd'hui, elle ne peut faire l'économie d'une réflexion sur la morale. Ce que l'on appelle l'éthique, c'est la réflexion sur ce qu'il convient de faire, ce qu'est, pour utiliser un terme dont l'usage a été popularisé bien avant moi par le philosophe Aristote, identifier ce que sont les pistes de la vie bonne, les voies de la vie bonne, donc confronté à la science, en quoi la science, si elle débouche sur une pratique, permet-elle de considérer que cette pratique est moralement légitime si on l'applique à l'homme ou à ce qui a de la signification pour l'homme, associée à une autre exigence, c'est de dire pour quelles raisons on se détermine à une solution ou à une autre. Je dis une solution ou une autre car très souvent, l'éthique prend la forme d'une tension, d'une incertitude. Dans le domaine du bien et du mal, il y a des questions qui ne sont pas éthiques. Est-il éthique de tuer son prochain, ce n'est pas une question éthique, non, c'est clair. La réponse ne laisse pas du tout place à la discussion, il n'est pas bien de tuer son prochain. En revanche, est-il bien de prendre un embryon humain, de le détruire, afin d'étudier des phénomènes et d'isoler des cellules dont on attend un grand progrès médical? Alors là, les choses sont moins simples. Car d'un côté, on va pouvoir argumenter que l'embryon humain, si jamais il s'était développé, aurait donné un petit bébé, c'est-à-dire une personne, et il est moralement légitime de respecter la personne. Est-il bien acceptable moralement, par conséquent, de détruire le début éventuel d'une personne? D'un autre côté, l'on va argumenter que ne pas utiliser son intelligence, sa raison, ses techniques pour essayer de porter remède aux maux dont souffrent les personnes réelles n'est pas moralement légitime. Mes deux propositions sont rationnelles, elles sont logiques. Néanmoins, elles sont absolument contradictoires l'une à l'autre. Ma première rationalisation débouche sur l'interdiction de la destruction des embryons pour la recherche. La deuxième débouche sur l'évidence qu'il faut mener de la recherche sur l'embryon pour aider les personnes. Ça, c'est le type même de ce qu'est une tension éthique. Or, l'éthique, telle que l'entendait Aristote, est une morale de l'action. C'est-à-dire qu'il n'est pas moral de ne pas répondre à la question dès lors que la question se pose. Il faut donc y répondre. Mais je ne vais pas y répondre au petit bonheur la chance, comme l'on dit. Il me faut, y répondant, spécifier, c'est-à-dire définir, expliquer les raisons qui m'amènent à penser que non, il n'est jamais légitime de détruire un embryon, ou alors que si, dans des conditions données, compte tenu du but poursuivi, il est légitime d'autoriser la recherche sur l'embryon s'accompagnant de sa destruction. Lorsqu'on parle d'éthique, une question se pose. C'est-à-dire que si nous étions ici dans une cité, membre d'un peuple, répondant à une morale religieuse, au XIVe siècle, XVe siècle, XVIe siècle, la morale était la morale chrétienne. Ou alors, en d'autres endroits, la morale islamique ou la morale judaïque, ou alors une morale philosophique athée. Cette morale dirait quelles sont les racines permettant de parvenir à la décision. Qu'est-ce qu'il faut faire des prêtres de la loi morale en vigueur pourraient statuer? Cela étant dit, en France, comme partout en Europe, comme presque partout dans le monde, pas partout, mais presque partout dans le monde, les sociétés sont plurielles, elles sont multiconfessionnelles, et d'ailleurs, il y a ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Par conséquent, les références morales sont multiples. Or, on ne peut régler une tension éthique sans faire référence à la morale. Quelles sont les conséquences de ce que les philosophes appellent, quand on est devant une telle incertitude, une aporie, une impossibilité, un problème insoluble? Ce problème, en réalité, n'est pas insoluble. Certains proposent qu'il l'est et qu'il faut renoncer à toute discussion éthique à valeur internationale car il n'y aurait pas de base universelle à la morale, c'est-à-dire à la définition du bien et du mal. Je n'en crois rien et en vous expliquant la raison pour laquelle je n'en crois rien, je vais commencer à traiter le problème de la reproduction. Pour quelle raison n'en croyais-je rien? C'est que les conditions dans lesquelles l'humain a pu émerger impliquent une disposition morale. Autrement, il n'y aurait pas d'humanité. Je m'explique. Imaginons, mesdemoiselles, messieurs, mesdames, messieurs, que, à votre naissance, vos parents aient été victimes d'un accident horrible auquel n'auraient pas survécu non plus les membres de leur pays. Mais eux, si. Alors, ils auraient été laissés dans le monde sauvage, non humain, élevés par des animaux. Ces filles et ces garçons auraient les gènes qui leur permettent d'être inspecteurs de l'université, brillants élèves, futurs chercheurs, apprentis chercheurs, que sais-je. Mais ces gènes codant ces potentialités ne trouveraient à s'exercer au sein d'une société humaine. Alors rien de tel ne surviendrait. Malgré ces conditions matérielles codées par le pouvoir des gènes, la personne hors d'une société humaine ne pourrait accéder aux capacités mentales dont nous sommes tout de même assez fiers. Cela veut dire que l'humain ne peut pas se comprendre à l'unité. Une femme ou un homme seul, indépendamment d'ailleurs de la question de reproduction, des mâles et des femelles, ne peut pas exister. Il faut être deux, au moins, pour s'humaniser l'un l'autre. Je compare parfois les potentialités codées par les gènes d'un garçon et d'une fille, d'un homme et d'une femme, à des bûches incandescentes, l'incandescence étant produite par ce pouvoir codant des gènes. Mais isolées l'une de l'autre dans la cheminée, elles n'engendrent pas de flamme. Il n'est que de les rapprocher pour que le feu crépite. Le feu dont je parle, c'est l'humanité qui émerge. Deux personnes dans leur rapport l'un à l'autre ne peuvent ignorer que si chacune d'entre elles a conscience d'elle-même, a développé son sens moral, son intelligence, sa créativité, son énergie, c'est que l'autre le lui a permis. L'autre, en quelque sorte, est comme un miroir dont les propriétés ne peuvent être connues, miroir déformant, mais miroir indispensable pour que je reflète mon être dans ce qu'il me renvoie. Seul, je ne peux prendre conscience de moi, je ne peux me connaître. Et bien entendu, j'ai rendu l'appareil à l'autre. Il s'ensuit que l'un et l'autre, qui constituent profondément la matrice originelle qui engendre l'humanité, entraînent le sentiment de la réciprocité. L'autre m'ayant été à ce point indispensable et moi lui ayant été à ce point indispensable, j'admets, je ne peux qu'admettre que l'autre est totalement justifié à se recommander des valeurs dont je me recommande, à revendiquer en ce qui le concerne les droits que je revendique pour moi. La réciprocité élémentaire entre l'un et l'autre constitue les bases d'une réflexion morale à vocation universelle, car si cette disposition n'avait existé, il n'y aurait aucun d'entre vous à pouvoir m'entendre dans ce salon. Et moi, je ne pourrais m'exprimer comme je le fais. Je vous ai parlé de l'un et l'autre. Le couple, c'est déjà l'un et l'autre. Et je vous ai parlé de base de la morale. Ces concepts trouvent-ils à s'appliquer à la question scientifique que je vais aborder maintenant, qui est celui de la reproduction humaine, des difficultés à la reproduction humaine et du développement de techniques permettant de porter remède à ces difficultés. Alors tout d'abord, pour les plus jeunes d'entre vous dans cette salle, quelques rappels. Lorsque la vie est apparue sur Terre il y a un peu moins de 4 milliards d'années, elle n'a commencé de se reproduire que par clonage. Le clonage est la forme originelle, normale, de reproduction des premières cellules vivantes. Puis, il y a un peu moins de 1 milliard d'années, croit-on, est apparu un nouveau mode de reproduction, qui est la sexualité. Quelle différence y a-t-il entre la reproduction par clonage et la reproduction par sexualité ? On peut les opposer deux à deux. Le clonage est le phénomène reproductif par lequel un en donne deux pour l'essentiel identiques, jamais totalement identiques. Autrement, il n'y aurait pas d'évolution. Mais pour l'essentiel identique, quatre pour l'essentiel identique, etc., etc. La reproduction sexuée, totalement à l'inverse, induit la coopération d'un mâle et d'une femelle, donc de deux êtres différents, afin d'engendrer, par la grande loterie de l'hérédité, tout un ensemble de descendants qui sont tous différents les uns des autres, à part quand ce sont des clones, des vrais jumeaux, et différents également des géniteurs. Le clonage reproduit du presque identique. La sexualité est un mécanisme à engendrer de la diversité. L'homme, Homo sapiens, et avant lui les primates, et plus généralement tous les mammifères, mais pas simplement, les oiseaux aussi, mais pas simplement... Les plantes à fleurs aussi se reproduisent de manière sexuée. Si la reproduction sexuée a eu un tel succès dans l'évolution, c'est que elle est avantageuse pour l'évolution. Je vous rappelle ici ce qu'est le principe de l'évolution darwinienne. L'évolution est ce phénomène qui, au sein d'une diversité biologique, je veux dire qu'une masse d'êtres, d'individus, diffèrent les uns des autres par certains traits. Ceux des individus, ceux des lignages, qui ont des avantages pour se reproduire dans un écosystème particulier, ont un succès reproductif qui outrepasse de loin celui des autres. Et par conséquent, au fil du temps, ceux qui sont les plus aptes à se reproduire dans cet écosystème perdurent alors que les autres finissent par disparaître. Voilà ce qu'est profondément le principe de l'évolution. Pour quelles raisons la reproduction sexuée est-elle avantageuse ? Pour des raisons théoriques, c'est contre-intuitif. On aurait pu penser que c'était une méthode bien coûteuse pour se reproduire. En réalité, c'est qu'elle engendre de la diversité. En effet, je vous ai dit que la reproduction optimum dépend des écosystèmes. Les propriétés pour se reproduire près d'une source chaude à 80 degrés ne sont pas celles pour se reproduire irradiées par les ultraviolets à la surface des eaux, ou alors dans un endroit qui est froid, ou alors plus tard sur Terre, etc., etc. Or, les écosystèmes ne sont pas génétiquement déterminés. Et il faut que la vie s'y adapte. Et pour que la vie s'y adapte, il faut que le mécanisme engendrant de la diversité soit d'une extraordinaire efficacité. Or, la sexualité est un mécanisme à engendrer de la diversité. Un homme et une femme, mais aussi un âne et une ânesse, tout aussi bien, peuvent en théorie ensemble engendrer des millions de milliards de petits bébés ou de petits ânes différents les uns des autres. La sexualité, nous en avons hérité, nous autres êtres humains. Nous ne l'avons pas inventée, bien entendu. Et nous reproduisons d'une manière qui ressemble beaucoup les comportements des autres mammifères. Cela étant dit, nous avons humanisé la reproduction, qui crée problème. En effet, la reproduction, le couple, la famille, c'est le lieu originel où se vit, où s'expérimente, au départ, cette valeur de l'altérité. Tout d'abord, pour qu'il y ait reproduction sexuée, et même s'il peut y avoir des couples homosexuels, mais ils ne sont pas au sein du couple reproductif, pour qu'il y ait reproduction sexuée, il faut deux êtres différents, un homme et une femme. Et les mécanismes de la grande loterie de l'hérédité font que cet homme et cette femme vont engendrer des enfants dans les traits desquels on va rechercher le signe qui rappelle le grand-père, la grand-mère, la grande-tante, mais également auxquels on demande de nous étonner. Nous voulons être étonnés par nos petits-enfants. Et pour ceux d'entre vous qui avez des frères, des sœurs, pour ceux d'entre nous qui avons des enfants, et voire pour certains d'entre nous, c'est mon cas, déjà une certaine ribambelle de petits-enfants, nous savons qu'ils sont tous différents les uns des autres alors qu'on les aime tous autant. Ils sont différents parce que cette grande loterie a créé un échantillonnage des gènes, des géniteurs, qui n'étaient pas programmables au départ. Donc la famille est vraiment le lieu où la valeur de l'altérité, c'est-à-dire la valeur de cette qualité de l'autre, est valorisée profondément, où sa richesse est vécue, où elle est reconnue. Par ailleurs, toute l'évolution des rapports entre les parents et les enfants va pouvoir être ramenée à une évolution de ce processus d'altérité. Lorsque naît l'enfant, au départ, c'est le lien fusionnel. L'enfant procédant de son papa, de sa maman, était dans le ventre de sa maman. Il naît et il n'est pas séparable encore de ses parents ni de sa mère. Et il périrait si on ne prenait soin de lui. Et puis progressivement, son altérité irréductible à celle de ses parents va s'affirmer avec la crise de l'adolescence. Jusqu'au jour où, très clairement, les parents vont aimer les enfants parce que ce sont leurs enfants et qu'ils sont responsables du fait qu'ils sont venus au monde, mais aussi parce que ce sont d'autres personnes qui les intéressent. Et les enfants vont redécouvrir leurs parents à un certain âge, très tôt en réalité, plus encore à l'adolescence. La fille, le garçon, observant ses parents, reconnaît ce qu'ils leur doivent, mais aussi les adopte. Et parfois, il se peut que ce grand cri d'amour soit dit, effectivement, poussé. « Papa, maman, je n'aurais pas voulu un autre père ou une autre mère que toi. Tu es mon père, tu es ma mère, mais je suis heureux qu'il en soit ainsi. Je t'adopte comme tel. » Ce sont à ce moment-là des personnes qui vont l'un vers l'autre à partir d'un lien biologique, mais qui se reconnaissent profondément dans leur altérité. Il se peut très bien que dans la famille humaine, il y ait de la difficulté à procréer. L'homme peut être stérile, la femme peut être stérile ou du moins d'une fécondité diminuée, je vais y revenir. Et les solutions pour arriver néanmoins à surmonter cela sont nombreuses. Je vais débuter par les solutions les plus évidentes. La première est l'adoption. L'adoption est possible pour quelle raison ? C'est que dans la filiation humaine, il y a deux racines. L'une est la filiation animale, ou bien végétale sexuée, pareil, c'est-à-dire la coopération biologique d'un mâle et d'une femelle pour engendrer des petits selon la loi de la grande, les lois de la grande loterie de l'hérédité. Et puis il y a une autre filiation, qui est celle par le cœur, par l'esprit, qui ressemble un peu à la filiation du maître à l'élève. Cet homme et cette femme qui s'aiment veulent également des enfants à aimer, des enfants auxquels elle, la femme, lui, l'homme, pourront essayer d'apprendre à se développer en tant que personne autonome, auxquels ils pourront tâcher de transmettre leurs valeurs. Ils trouvent que c'est un beau moyen d'expérimenter leur amour l'un pour l'autre que de coopérer dans la participation à l'édification de cette autre personne que sera cette petite fille ou ce petit garçon adopté. Et néanmoins, cette fille et ce garçon sont pleinement les enfants de la famille. Une famille humaine est définie par une série de liens. Souvent, il y a le lien biologique, mais il peut ne pas exister. Il y a surtout le lien de cet homme et de cette femme qui regardent ses enfants comme les leurs et de ses enfants qui regardent cet homme et cette femme comme leurs parents. C'est la raison pour laquelle j'ai été très profondément choqué lorsqu'une loi de la République a tâché de porter gravement atteinte à ce principe qui fait consensus normalement dans la pensée juridique et morale du peuple français. Cette irréductibilité de la famille humaine à sa dimension biologique est en effet une dimension qui n'a jamais été remise en cause, notamment lorsque l'on a rediscuté, après 1994, des lois de bioéthique. Et c'est la raison pour laquelle, pour quelque raison que ce soit, la disposition impliquant que la définition, les contours d'une famille dont on va faciliter le regroupement familial en France sont des contours biologiques, est totalement antinomique avec cette pensée qui caractérise notre peuple, et me semble, et juridiquement, ça n'est pas à moi de le dire, mais également moralement illégitime. Revenons aux autres méthodes permettant de lutter contre l'infécondité. Une des premières méthodes qui est apparue, c'est le don de gamètes mâles. C'est la fécondation de la femme avec un sperme de donneur. Lorsque l'homme est stérile, mais que la femme est fertile, si l'homme et la femme acceptent que la femme soit fécondée avec un sperme de donneur, ce sera un enfant biologique de la femme et puis d'un géniteur mâle étranger, mais ce ne sera pas l'enfant biologique du père. Néanmoins, puisque la famille humaine est irréductible à sa dimension biologique, ce sera le père et la mère de cet enfant. Et c'est une méthode qui a été largement utilisée pour vaincre les infécondités. Une autre méthode, alors que dire maintenant d'un point de vue éthique, moral, de cette pratique ? On voit bien que dès lors qu'il n'y a pas de réductibilité de la famille humaine à sa dimension biologique, dès lors que l'homme et la femme sont d'accord pour que l'enfant advienne de cette manière, dès lors qu'ils sont convenus d'aimer et d'élever cet enfant, cette pratique ne pose aucun problème moral ni aucun problème éthique. Aucun. Si on définit la morale comme je l'ai fait, par tout ce qui prend en compte le souci de l'autre, et par l'immoralité, tout ce qui nie le souci de l'autre. Dans cette pratique, rien ne conteste la valeur de l'autre, le souci de l'autre. Il existe également, je commence par la marge, par la périphérie. Il existe également une technique beaucoup plus moderne qui est apparue, qui s'applique aux femmes. Les femmes, par un processus biologique d'ailleurs qui n'est pas très répandu dans la nature, qui n'existe pratiquement que chez l'homme, l'homme et la femme, ont une période de fécondité. Les jeunes filles sont fécondes à partir de la puberté. Leur fécondité passe par un maximum entre 19 et 25 ans. Et puis cette fécondité féminine diminue lentement, mais assez rapidement. Déjà à 30 ans, elle est très inférieure à ce qu'elle est à 25 ans. À 35 ans, encore inférieure. Une femme à 40 ans peut être féconde, mais la fécondité est de 20 à 30 fois moins que la fécondité d'une jeune femme à 25 ans. Nous verrons que cela est à l'origine d'une des difficultés rencontrées dans la société moderne où les femmes ont des enfants de plus en plus tard, compte tenu de leur implication dans la vie professionnelle. Et puis, il y a un moment où des modifications hormonales se produisent et où les femmes cessent d'émettre des ovules. Donc, il n'y a plus de gamètes féminins. Et évidemment, les femmes deviennent non fécondes. C'est ce que l'on appelle la ménopause. Mais il est apparu que peut-être on ne pouvait pas accepter comme cela simplement que les hommes puissent procréer jusqu'à 70 ans passés, s'ils ont la santé, alors qu'à 53 ans, les femmes sont le plus souvent belles, séduisantes, actives, et elles ne pourraient plus procréer. Et c'est quelque chose qui peut être très mal vécu. Si bien qu'une technique s'est développée, il y a maintenant une dizaine d'années de cela, qui consiste à faire des injections hormonales aux femmes de telle sorte que leur utérus ait les propriétés nécessaires à ce que s'y implante un œuf. Mais évidemment, cet œuf ne peut pas venir de la fécondation d'un ovule de cette femme par un spermatozoïde, car la femme ne fabrique plus d'ovule. Donc, la technique consiste à se procurer un ovule émis par les ovaires d'une jeune femme, faire féconder cet ovule par le sperme d'un homme, éventuellement son compagnon, mais un autre peut faire l'affaire aussi, et placer cet œuf dans le ventre d'une femme. Essayons de traiter l'aspect moral, éthique de cette pratique, à l'aune des quelques principes que je vous ai proposés. Premièrement, est-ce que l'enfant qui va naître est instrumentalisé ? Non, probablement cette femme s'apprête à l'aimer et si jamais elle vit encore en couple avec un monsieur, cet homme s'apprête à l'aimer. Donc là, on ne peut pas s'opposer à cette technique parce que ce serait le biais par lequel on ne reconnaîtrait pas la valeur de l'enfant à naître. Est-ce qu'il est scandaleux qu'une femme de 55 ans désire être mère ? Non. À partir du moment où on trouve qu'il n'est pas scandaleux qu'un homme de 55 ans aime être père, pour quelle raison dirions-nous qu'il est scandaleux qu'une femme de 55 ans désire être mère? Par conséquent, cela, on ne peut pas non plus l'écarter d'un revers de main. Maintenant, il y a évidemment une troisième personne en jeu, une quatrième parce qu'il y a le médecin aussi. Cette troisième personne, c'est l'enfant. Et il est légitime de se poser la question, sont-ce là des conditions optimales pour l'enfant? C'est difficile d'y répondre. Honnêtement, c'est difficile. D'un côté, il y a des enfants qui sont élevés par leur grand-mère et qui sont des enfants fort heureux. Être élevé par un couple aimant vieillissant vaut mieux parfois qu'être élevé par un couple jeune de buteurs alcooliques. D'un autre côté, on sait combien l'enfant, au sortir de l'école, est des fois content d'appeler ses copains pour montrer sa jolie maman. Est-ce que le fait que sa jolie maman soit plutôt son alerte grand-mère ne sera pas quelque chose de difficile à surmonter par rapport aux autres enfants? Honnêtement, je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, voilà quelle est la méthode permettant de poser une question éthique. Alors, il y a un troisième protagoniste, un quatrième protagoniste, je vous ai dit, le médecin. Alors, pour le médecin, les choses sont relativement plus simples. En effet, le médecin qui est appelé à aider à cette pratique doit reconnaître la légitimité de la demande de la femme, doit prendre en compte le questionnement sur l'intérêt de l'enfant, on ne parle pas du monsieur ici, mais se doit également de prendre en compte le danger encouru par la femme. Une grossesse à 60 ans est plus dangereuse qu'une grossesse à 25 ans. au niveau cardiovasculaire, au niveau hypertension artérielle, au niveau etc., etc. Donc la responsabilité éthique du médecin est certainement soulevée par ce type de pratique. Continuons à tâcher de répondre techniquement et à analyser les conséquences morales de ces solutions techniques, les moyens que l'on a de surmonter l'infécondité. Il y a 22 ans, à peu près, oui, est né Louise Braun, ou plus que ça, je ne me rappelle plus, bon, peu importe. Un certain nombre de décennies est né Louise Braun. Louise Braun est le premier bébé éprouvette de l'histoire. De quoi s'agit-il ? Parmi les causes de stérilité des femmes, il y a l'obstruction des trompes de Fallope. Les trompes de Fallope, vous le savez, ce sont ces organes qui mènent depuis les ovaires jusqu'à l'utérus. C'est donc un tuyau. Et après fécondation, les spermatozoïdes remontent par le col de l'utérus, voyagent dans l'utérus et commencent à remonter le courant dans les trompes de Fallope. Et c'est là, dans les trompes de Fallope, qu'ils fécondent, en général, l'ovule émis par les ovaires de la femme. Lorsque les trompes sont bouchées, le spermatozoïde et l'ovule ne peuvent pas se rencontrer et il ne peut pas y avoir fécondation. C'est pour répondre à cette cause fréquente de stérilité que les premières fécondations in vitro ont été mises au point. Ces causes de stérilité sont fréquentes parce que les infections génitales, quelles qu'elles soient, et notamment celles qui parfois été provoquées par des interruptions volontaires de grossesse à répétition, entraînant des salpingites, étaient génératrices de ces obstructions tubaires. La méthode ici permettant de surmonter cela consiste à prendre l'ovule dans le ventre de la femme et dans un tube à essai mettre cet ovule au contact du spermatozoïde. Mais normalement, lors de tout cycle, les femmes émettent un seul ovule. Or, la méthode n'est pas tellement efficace, et s'il fallait n'avoir et ne disposer que d'un seul ovule, les succès seraient rarissimes. C'est la raison pour laquelle, pour augmenter les possibilités de parvenir à la naissance d'un bébé dans ces conditions, la première étape consiste à provoquer une hyperovulation chez les femmes. On injecte aux femmes une hormone qui provoque la maturation simultanée d'une dizaines de follicules d'où émergent les ovules. Cela donne des espèces de kystes au niveau des ovaires et avec un dispositif échographique et optique, on repère ces kystes et à l'aide d'une aiguille introduite dans le ventre par voie endovaginale, on va piquer les ovaires et récupérer le liquide et une dizaine d'ovules. Donc on a une dizaine d'ovules que l'on met au contact du sperme du monsieur qui a émis son sperme séparément. Et on a ainsi en moyenne 5 à 6 embryons. La pratique a consisté au départ à placer 3 embryons en moyenne dans le ventre de la femme en se disant il y en a bien un qui va se développer. Cette pratique a évolué parce que malheureusement très souvent il y en avait plus d'un qui évoluait, il y en avait 2 ou 3. Et cette pratique, au départ, a donné un très grand nombre de grossesses multiples. La femme qui veut un enfant n'en vaut pas forcément 3 d'un seul coup. D'autre part, elle met gravement sa santé en danger, et puis la santé des enfants qui risquent d'être prématurés, avec tous les risques de la prématurité. Aujourd'hui, la méthode est beaucoup mieux maîtrisée, et on a tendance à ne jamais mettre en tout cas plus de 2 embryons dans le ventre de la femme, voire même certaines équipes ne mettent qu'un seul embryon dans le ventre de la femme. Cette méthode permet d'avoir des enfants avec une bonne fréquence et le taux de succès par expérience est de l'ordre de 10%. Ce qui est pas mal parce que le taux de succès par rapport sexuel fécondant n'est pas plus que de 25%. Donc vous voyez qu'on s'approche du taux de succès d'un rapport fécondant entre un homme et une femme. Lorsque la fécondation in vitro a été mise au point, énormément d'interrogations se sont fait jour sur le caractère moralement légitime de cela. Et c'est du fait de l'émoi créé par cette possibilité, cette maîtrise de la reproduction, que le président François Mitterrand, en 1983, a créé le premier comité consultatif national d'éthique au monde, le Comité consultatif national d'éthique français, afin de se préparer à traiter des problèmes de cet ordre, les tensions éthiques de cet ordre. Aujourd'hui, la technique s'est banalisée. Et de fait, les problèmes étaient que sera cet enfant qui n'est pas un enfant de l'amour d'un homme et d'une femme, qui a été conçu sans que se connaissent corporellement, physiquement, un homme et une femme? Est-ce qu'il sera bien l'enfant du couple? D'un point de vue biologique, la question se pose guère, car le phénomène biologique, qu'il se passe dans les trompes de Fallope ou dans un tube à essai, est profondément le même. Il y a des ovules, il y a des millions, un éjaculat masculin, c'est 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Donc il y a des dizaines de millions de spermatozoïdes et un au hasard va féconder l'ovule, que ce soit dans les trompes de Fallope ou bien dans le tube à essai. Il fallait s'aviser que l'embryon ainsi cultivé quelque temps hors du corps d'une femme n'était pas altéré, n'était pas endommagé. Et aujourd'hui, on a à peu près une bonne certitude que tel est le cas, et il s'agit d'une technique relativement de routine. Il n'y a plus guère de contestation importante de cette technique, si ce n'est sur une base d'une morale qui n'a rien à voir avec celle dont j'ai parlé. Il y a des églises qui refusent totalement la fécondation in vitro. Et la raison de ces églises n'est pas que la fécondation in vitro est une mise en question de l'altérité, de la valeur de l'autre. Je veux dire, cet homme et cette femme consentent, ils veulent un enfant qu'ils vont aimer, ce sera leur enfant engendré par le père et la mère. Mais c'est que, pour certaines églises, l'embryon en lui-même, de la même manière d'ailleurs que le contact d'un homme et d'une femme, ont un caractère sacré qui interdit pratiquement de jouer avec, de les connaître, d'y intervenir, d'y mettre la main. Il faut respecter cette sagesse, mais elle n'a pas de vocation à être universelle. C'est une morale particulière qui vaut à l'aune de cette morale particulière. Pour moi, la fécondation in vitro ne pose pas réellement de problème moral. Ça pose des questions, c'est-à-dire que est-ce que, si on y recourt trop souvent, l'hyperstimulation hormonale de la femme ne va pas mettre sa santé, sa fécondité à long terme en danger? C'est une question qui peut se poser. Est-ce qu'à faire travailler de manière accélérée ses ovaires, on ne va pas augmenter la fréquence peut-être des cancers de l'ovaire? C'est une autre question qui se pose. Mais vous voyez que c'est tout de même une question morale assez particulière quand même. Et puis, on s'est posé la question des infécondités masculines. Vous savez, notre société, pas de toute éternité, parce que quand on regarde les mécanismes de l'évolution, dans les mécanismes de l'évolution, évidemment, on connaît les systèmes animaux où il y a un mâle dominant avec une corde de 5 ou 6 femelles, mais il ne faut pas en conclure qu'il est tout à fait normal, d'après les principes de l'évolution, que la société soit dominée par des mâles. Car en réalité, dans le monde animal, c'est toujours les femelles qui choisissent les accouplements, toujours. Et la raison pour laquelle il existe des fois un mâle dominant avec 5 femelles, c'est qu'il est de l'intérêt des femelles, effectivement, de toutes s'accoupler avec un mâle à la valeur génétique particulièrement développée. Mais c'est toujours les femelles qui choisissent. Un mâle, à part peut-être chez les oiseaux, il semble bien que le coq ne demande pas son avis aux poules avant que de les féconder, mais dans le reste du monde animal, c'est vraiment les femelles qui choisissent. Pour des raisons culturelles, pour des raisons profondément construites, nos sociétés, presque toujours, pas toujours, mais presque toujours, ont créé une société dissymétrique et déséquilibrée, avec un pouvoir démesuré, exclusif, donné au mâle, donné aux hommes. Comme si les hommes, ayant conscience de ce que les femmes avaient les mêmes pouvoirs qu'eux, plus celui de donner la vie, ne pouvaient exorciser le danger qu'elles représentaient ce faisant qu'en se servant du seul avantage qu'ils ont, c'est-à-dire leur force physique. Je dis souvent qu'entre les mâles et les femelles, celles qui donnent la vie sont les femmes, ceux qui donnent le mieux la mort, ce sont les hommes. Et, semble-t-il, ils s'en sont servis. Si bien que, pendant très longtemps, lorsqu'un couple était stérile, il ne venait pas à l'idée que ce pût être à cause de monsieur. Monsieur, par définition, il était puissant et fertile. Il n'en est rien. Le succès commercial du Viagra montre qu'ils ne sont pas tous puissants. Deuxièmement, les biologistes savent qu'ils ne sont pas tous fertiles. Et en réalité, dans l'infécondité d'un couple, la responsabilité est partagée et les hommes sont aussi fréquemment en cause que les femmes. Donc les biologistes ont commencé de s'intéresser à l'infertilité masculine. Certains hommes, au lieu d'émettre quelques dizaines, une centaine de millions, normalement c'est 200 millions par millilitre, mais notre sperme s'est appauvri avec la vie moderne, n'émettent plus que quelques centaines de milliers de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Et les spermes aussi dilués que ceux-là sont peu fécondants dans des conditions de rapport physique entre un homme et une femme. Qu'à cela ne tienne, pour arriver à contrebalancer cela, il suffit de demander au monsieur d'émettre son sperme, de centrifuger les spermatozoïdes, de les concentrer et de faire une fécondation in vitro avec du sperme concentré. Ça marche très bien. Et puis, parfois, il y a des messieurs qui n'ont que quelques milliers de spermatozoïdes. Et en plus, ils sont mal foutus. Ils sont incapables de nager, ils crawlent très mal. Ils n'arriveront pas à remonter la piscine pour atteindre le mât de cocagne, c'est-à-dire l'ovule féminin. Si on ne les y aide pas, ils feront rien du tout. Même après concentration, ces spermes ne sont pas fécondants. Alors une équipe belge, soi-disant par hasard, mais en réalité un hasard orienté, a trouvé qu'il pouvait être intéressant de prendre un de ces spermatozoïdes mal foutus et au lieu de le mettre au contact d'un ovule, de le mettre dans une seringue prolongée par une aiguille, de piquer l'ovule avec l'aiguille et d'injecter le spermatozoïde. C'est ce que l'on appelle la méthode de l'ICSI, ce qui veut dire, en anglais, l'injection dans l'ovule des spermatozoïdes. C'est une méthode qui marche extraordinairement bien. Extraordinairement bien. Voyons les problèmes moraux posés par cette technique. Dans le fond, si cette technique marche bien, elle n'est qu'un cas particulier de la fécondation in vitro. Cependant, les conditions dans lesquelles cette pratique a été développée sont singulières. Lorsque l'on a commencé à essayer cette technique, on ne l'avait jamais essayée chez aucun animal. Le premier animal chez lequel on a expérimenté cette technique, c'est la femme et l'homme. Secondairement, d'ailleurs, on s'est mis à appliquer parfois cette technique chez l'animal, après cette expérimentation humaine de première intention. Or, avant de savoir ce que ça allait donner, comme dirait M. de la Palisse, on ne pouvait pas savoir si cette technique allait marcher. On ne pouvait pas savoir. Il y avait des raisons théoriques de penser que ça pouvait être problématique. En d'autres termes, on prenait un spermatozoïde mal foutu, totalement non fécondant, et on lui permettait d'être néanmoins fécondant. Mais on n'avait aucune idée de la qualité du produit qui serait issu de cette fécondation. On pouvait imaginer que l'évolution avait empêché ce spermatozoïde d'être fécondant parce que, pour se préserver en quelque sorte, de la naissance d'un produit de qualité très inférieure, avec des malformations multiples, que sais-je. Personne ne pouvait vraiment le dire. Et naturellement, pour un biologiste de la reproduction qui aide un couple stérile à avoir un enfant, permettre en effet à ce couple d'avoir un enfant, mais un enfant programmé biologiquement pour souffrir et mourir car gravement mal formé, c'est l'horreur absolue. c'est l'échec majeur. Et pourtant, cette pratique a été développée chez l'homme sans aucun antécédent chez l'animal, alors même que, théoriquement, on pouvait craindre que la méthode ne soit pas anodine. Tout se passe comme si nous en étions revenus aujourd'hui à la conjonction de deux phénomènes. Le premier d'entre eux est la folle témérité de certains collègues biologistes qui sont mus par le souci de la performance plus que par celui du service rendu. Le deuxième est l'acceptation d'un risque inconsidéré de la part des géniteurs afin à tout prix de se garantir une filiation par le sang, même quand les maladies avec infécondité la rendent très difficile. Incontestablement, les conditions dans lesquelles cette pratique a commencé de s'établir étaient très problématiques. Très problématiques parce que prendre le risque de faire naître un autre, l'enfant à naître, alors que l'on pouvait imaginer que théoriquement, il pouvait être mal formé et mal se développer, est totalement immoral, d'après les définitions que je vous ai proposées de l'approche morale. Maintenant, les choses ont un peu changé, parce que les choses ont été faites néanmoins, et de fait, cette méthode, l'ICSI, marche très bien. Non seulement elle marche très bien, mais c'est même la méthode de fécondation qui marche la mieux. Pour avoir un enfant, on peut en avoir avec un pourcentage un peu plus élevé par ICSI que par des gros câlins sous la couette, ou sur la couette comme on préfère. Ce qui ne veut pas dire que l'agrément soit le même dans les deux cas. Je continue à préférer la méthode traditionnelle, mais pour d'autres raisons. Sur le plan de l'efficacité, l'ICSI est d'une redoutable efficacité. Parfois, les hommes étaient à ce degré stérile qu'ils n'émettaient aucun spermatozoïde. On a vu alors une équipe qui n'a pas osé travailler en France, mais qui a fait cette expérience à l'étranger, mais une équipe française, qui a été jusqu'à faire un prélèvement de fragments testiculaires chez l'homme, s'est mis à cultiver ce fragment testiculaire afin de provoquer par des traitements hormonaux massifs la maturation d'une cellule très mal foutue, un spermatide, qui, une fois injecté dans l'ovule, aurait été fécondant. Une acrobatie incroyable, ce que j'appelle l'acharnement procréatique. Bien entendu, une telle démarche, dont la dangerosité potentielle ne peut absolument pas être éliminée, n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable tant que le risque existe de faire advenir des vies programmées, comme je l'ai dit, pour la souffrance et pour la mort. Et puis il existe, et je terminerai par ces situations, il existe des cas d'infertilité robustement fixés, auxquels on ne peut rien. Imaginons par exemple que à l'âge de 14 ans, quand je ne pensais guère à procréer, j'ai été atteint d'un cancer des ganglions, appelé maladie de Hodgkin. L'on m'aurait traité par une polychimiothérapie qui m'aurait guéri. Et de fait, la maladie de Hodgkin est guérie par la chimiothérapie aujourd'hui dans 95% des cas. Donc je suis guéri, mais irrémédiablement stérile. Je me marie, je veux un enfant et je ne veux pas un enfant d'un autre que moi. Je veux un enfant de moi. Je refuse que ma femme soit fécondée par un sperme de donneur. Cet adultère médicalisé me fait horreur. Je veux mon enfant. Alors un biologiste arrive qui me fait savoir qu'il y a une méthode. Cette méthode, c'est le clonage reproductif appliqué à l'homme. Aujourd'hui, il ne marche pas. On ne l'a jamais fait marcher, mais avec beaucoup de difficultés, on a pour la première fois récemment réussi à cloner un singe. Donc, un jour, on arrivera certainement à cloner des hommes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Comment s'y prendrait-on pour m'assurer, malgré ma stérilité, un enfant de mon sang ? J'ai deux filles et une belle-fille. J'ai deux filles et deux belles-filles qui doivent être en âge, qui sont en âge de procréer et qui doivent avoir une ovulation normale. Donc, mes belles-filles et mes filles, par grande affection, me font cadeau chacune d'une dizaine d'ovules. Ça m'en fait 40. Ça ne me suffit pas, mais comme j'ai des moyens, je m'en achète sur le marché libre des ovules. Je me paye comme ça 200 ou 300 ovules. J'ai mes ovules dans un coin. Puis je demande à un laboratoire, avec des biologistes, d'opérer. Ils me font un prélèvement de sang ou cutané. Ils prennent des cellules de mon corps et ils introduisent dans chacun de ces ovules, ceux de mes filles ou bien d'autres femmes, débarrassés de leur propre chromosome, de leur propre noyau, ils introduisent à la place des noyaux de mes cellules. Cette méthode de clonage marche pas bien, mais ça marche des fois, et admettons que dans mon cas, ça marche. Donc, sur 200 tentatives, il y a 2 embryons qui commencent à se développer dans la boîte de Pétri. On les met dans le ventre. Alors, ma compagne, je suis pas sûr que son ventre soit suffisamment fertile, mais on va dire d'une mère porteuse, une de mes filles, par exemple, si elle veut aller jusque-là, ou alors j'en paierai une, peu importe, j'ai les moyens. Et si ça marche, cette femme accouche d'un très joli petit bébé. Il a les yeux brun vert, une délicieuse fossette au menton. Il est bien sous tout rapport. Il sera un jeune homme de taille moyenne, avec une légère myopie. À partir de 40 ans, il aura une calvitie élégante. Tout cela est certain. Ce sera mon jumeau. Ce sera mon jumeau. Il aura les mêmes gènes que moi. Mais évidemment, ce ne sera pas moi. Il sera élevé à une autre époque, par d'autres professeurs, avec d'autres valeurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une personnalité, ce ne sont pas que les gènes, c'est également l'éducation, l'amour. Mais il aura le corps que je lui aurai imposé, en quelque sorte. Comment discuter la moralité ou l'immoralité légitime de cette pratique ? On peut considérer que l'autonomie des autres commence par la limitation du pouvoir des parents. Les parents ont un enfant aujourd'hui grâce au contrôle des naissances quand ils veulent et grâce à la lutte contre la stérilité s'ils veulent, quand ça marche, mais ça marche souvent, s'ils veulent. Mais grâce à la grande loterie de l'hérédité, ils ont un garçon ou une fille et les traits sont divers. Et d'une certaine manière, l'enfant échappe à la surdétermination par les parents. Les parents ont toujours une petite tendance narcissique. L'enfant est ce qui va continuer le parent, lui survivre après sa mort. Le génome des parents sera encore là dans leur enfant après qu'ils seront morts. On demande aux enfants de nous consoler de toutes nos frustrations, d'atteindre les objectifs que nous n'avons pas atteints à notre place. Mais heureusement, l'enfant, il est ce qu'il est. Le hasard, la grande loterie de l'hérédité. Il n'a pas le corps, le sexe, la couleur des yeux, les cheveux qu'on lui a imposés. 18 ans après qu'il est né, d'après notre loi, un enfant, une femme, une jeune fille, un garçon, est un citoyen à égalité de devoirs et de droits avec ses géniteurs. Que cela veut-il dire si ses géniteurs lui ont imposé ce qui est aussi personnel à son intimité ? Son sexe, son visage, son corps. En réalité, l'on voit bien que ce respect de l'altérité de l'autre, cette appréciation de l'altérité de l'autre, rend totalement illégitime cette démarche voulant utiliser le clonage pour pallier une infécondité. Enfin, et pour terminer, on est dans la modernité. Pour quelle raison faut-il un homme et une femme pour faire un bébé ? Et pour quelle raison ne pourrait-on pas faire des bébés uniquement avec des ovules ? En fait, quand on prend un ovule et qu'on le traite par des produits chimiques ou bien par un courant électrique, il commence à se développer comme un embryon. Mais rapidement, cet embryon dégénère et il ne peut jamais donner un bébé. C'est qu'il existe dans le corps, dans nos cellules, certains gènes dont une copie simplement fonctionne. Chacun d'entre nous a 2 copies de chaque gène. Une copie qui vient du père et l'autre copie qui vient de la mère. En général, la copie paternelle et la copie maternelle fonctionnent toutes deux. Mais dans certains cas, ne fonctionne que la copie paternelle ou que la copie maternelle. Et ça, cet équilibre est nécessaire pour que se développent les enfants. C'est la raison pour laquelle un embryon qui vient uniquement d'un tissu femelle ou d'un tissu mâle ne peut pas se développer. Mais ces gènes soumis à empreinte ne sont pas très très nombreux. Et chez la souris récemment, on a réussi à féconder un ovule par un autre ovule. On a pris l'ovule mûr d'une souris et chez une autre souris, on a maîtrisé certaines modifications génétiques, un petit nombre, 3 ou 4 simplement. Et on a pris un gamète femelle immature dont on s'est servi comme d'un spermatozoïde pour féconder l'ovule mûr. Et ça aboutit à des petits souriceaux viables. Pas beaucoup naturellement, c'est très difficile. La fréquence des naissances est rare. Ça veut dire que demain, on pourrait imaginer une nouvelle forme d'homoparentalité. Aujourd'hui, les couples d'hommes homosexuels demandent à pouvoir adopter des enfants. Ou alors, éventuellement, ils demandent à pouvoir adopter un enfant qui est le résultat d'une mère porteuse et fécondée par le sperme d'un des conjoints du couple homosexuel mâle. En revanche, naturellement, les hommes ne peuvent pas se reproduire directement l'un avec l'autre. En revanche, pour un couple de femmes, d'abord, elles peuvent se reproduire nulle autre par clonage, mais aussi on peut imaginer que demain, elles pourraient se reproduire par cette méthode qui est parthénogenèse. En d'autres termes, l'une d'entre elles féconderait l'autre réellement avec un ovule modifié. Il y a une grande différence. Si un couple de femmes homosexuelles se reproduit par clonage, les enfants seront les jumelles de l'une des deux génitrices. Alors que si un couple de femmes se reproduit par parthénogenèse, la grande loterie de l'hérédité jouera et ce couple de femmes pourra avoir une diversité de petites filles. Ce sera obligatoirement toutes des petites filles, mais différentes les unes des autres. Alors maintenant que vous êtes bien armés pour poser les problèmes éthiques, je vous laisse pour votre insomnie de cette nuit le soin de vous dire en vous-même si jamais cette méthode était maîtrisée, serait-elle légitime ? Pour terminer cet exposé, je voudrais faire le lien entre cette réflexion, cette discussion et les apprentis-chercheurs, ce mouvement, cet effort tout à fait extraordinaire qui a été initié par le professeur Ali Saïb initialement. Vous avez bien observé, je parle surtout ici aux élèves, vous avez bien observé que toutes les questions que je vous ai posées partent d'une situation que l'on comprend bien, mais à un moment donné, touchent à des problèmes d'ordre biologique, scientifique, qui ne sont pas simples. On ne peut résoudre l'aspect moral des questions posées uniquement par la référence aux aspects techniques. D'un autre côté, il est difficile aussi de traiter de ces aspects moraux si on n'en connaît pas la dimension technique. Plus généralement, aujourd'hui, dans notre monde, nous sommes en permanence sollicités par des questions qui sont des questions importantes, dérangeantes. Et nous devons, en tant que femmes, en tant qu'hommes, en tant que citoyens, nous devons répondre à ces questions, soit en ce qui nous concerne, pour nous-mêmes, soit alors en tant que citoyens, s'il s'agit d'une décision qu'il revient à la démocratie de prendre. Et la question se pose, serons-nous capables d'assumer pleinement cette autonomie et cette citoyenneté ? Assumer pleinement cette autonomie et cette citoyenneté signifie être capable de s'approprier la dimension scientifique et technique de ces questions. Par ailleurs, pour que dans notre société, on enrichisse les manières de répondre à ces questions sur un plan scientifique et technique, il faut qu'il y ait des chercheuses et des chercheurs. Et parmi tous ces jeunes apprentis chercheurs, il y en aura peut-être certains qui voudront en effet être non seulement des apprentis chercheurs, mais des chercheuses et des chercheurs. Ils mettront alors peut-être au point de nouvelles méthodes de lutte contre la stérilité. Ils comprendront les phénomènes du développement embryonnaire. Ils travailleront sur des nouvelles méthodes thérapeutiques. En tant que citoyennes, que citoyens, ils se poseront également le problème, la question de la légitimité de l'application à leur société de ces techniques qu'ils ont appris à maîtriser. C'est vraiment pour donner toutes ces chances à l'émergence de ces deux manières d'être femme et homme que cette initiative a été prise. Merci.
C'était Axel Kahn, généticien, membre de l'Académie des sciences. Sa conférence portait sur l'éthique et la société avec l'exemple de la procréation assistée et les limites que médecins et biologistes doivent se donner. Il s'exprimait face à un public de lycéens au Grand Salon de la Sorbonne à Paris lors de la Semaine de la Science en octobre 2007. Écoutez également Axel Kahn au micro de Canal Académie sur le sujet « Science et nature humaine, qui contrôle qui ?» Cette émission est en libre téléchargement sur Canal Académie. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.